Bonjour Anderson, merci beaucoup déjà d'être venu sur Cité Radio.
Bonjour, c'est un plaisir d'être là.
Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Je suis Anderson Demichel, journaliste haïtien, réfugié en France et résident actuellement à la Maison des journalistes.
D'accord. Et alors qu'est-ce que vous faisiez à Haïti ?
En Haïti, j'étais journaliste, présentateur et j'avais une émission qui s'appelle « Haïti et ses choix de dirigeants politiques ».
Et donc cette émission a consisté en quoi ?
C'était une émission à caractère politique où je parlais de la situation politique et aussi l'implication des politiques dans des affaires de corruption et aussi des hommes d'affaires, dans des affaires de corruption et des détournements de fonds et de massacres aussi.
Et a rencontré un succès cette émission ?
Oui, ça a été très prisé par différents publics et ça a été, en fait, j'étais dans une radio qui s'appelle Prince Inter à Petit Gouave, c'est en province, c'est dans l'ouest d'Haïti. Et après des parcours dans des médias à la capitale, j'avais décidé de rentrer en Haïti, de rentrer à Petit Gouave pour faire cette émission où je me sentais plus libre pour pouvoir m'exprimer parce qu'il y a pas mal de censure aussi dans certains médias de la capitale. Du coup, c'était une émission qui a été très prisée de voir un journaliste traiter des sujets qui font peur ou d'autres journalistes refusent de traiter et de la manière dont je les ai traités. Donc ça a rencontré pas mal de succès auprès des publics.
Et justement, comment vous les traitiez ces sujets ?
Au fait, c'était des sujets chauds, je peux dire. Et par exemple, je parlais du massacre qu'il y a eu à La Saline en novembre 2018. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle je suis aujourd'hui en France, parce qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas vraiment s'éterniser là-dessus. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait une enquête, qu'il y ait vraiment des procès par rapport à ça. Et massacre à La Saline, c'est un massacre qui a été fait en novembre 2018, où il y a eu plus de 70 personnes qui ont été assassinées, des femmes qui ont été violées et aussi des corps qui ont été déchiquetés, brûlés et laissés à la merci des cochons. Donc il y a eu l'ONU et d'autres organisations de droits humains qui ont dressé des rapports pour dire que c'était un massacre d'État organisé par les gangs du pouvoir. Et malgré tout, les médias, à un certain moment, ont cessé d'en parler et pour qu'il y ait vraiment des enquêtes et un procès là-dessus. Moi, j'insistais sur ce genre de sujet pour dire qu'il faut qu'il y ait justice. Du coup, j'ai été la cible des politiques et aussi de certains hommes d'affaires.
Parce que là, vous le disiez, justement, il y a des gangs au pouvoir à Haïti. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette situation géopolitique là-bas ?
Aujourd'hui, tout le pays est gangstérisé. Et il y avait l'ancien président Jovenel Moïse qui avait donné l'ordre à ces gangs de se fédérer sous le nom de G9, qui est dirigé par un ex-policier qui s'appelle Barbecue aujourd'hui, qui s'appelle Jimmy Cherizier, alias Barbecue, parce qu'il a une méthode, lui, de brûler les gens. Donc, c'est le pouvoir qui a vraiment fédéré les gangs aujourd'hui et alimenté ces gangs-là en armes et aussi en argent.
Vous êtes devenu journaliste donc à Haïti et vous racontiez une anecdote quand vous avez dit à votre mère que vous vouliez devenir journaliste, elle a eu une réaction un peu surprenante.
Oui, parce que en Haïti, dès que tu dis que tu veux être journaliste, on sent que il y a quelque chose qui va pas chez toi. Donc c'est comme si tu pétais un câble en quelque sorte. Donc c'est que tu avais une envie de suicide. Donc c'était ça et ma mère me disait ben voilà, c'est fini, dans quelques années j'aurai plus de fils et je suis le fils unique de ma mère. Donc du coup on sent l'inquiétude vite fait chez elle. Donc malgré tout, j'avais cette envie là d'être utile à ma population, à la population haïtienne, et pour moi je devais passer à travers la presse.
Et comment vous pouvez expliquer justement cette envie-là qui vous tenait ? Parce que ça a été une envie qui arrivait plutôt jeune.
Ouais, c'était très jeune. Déjà, j'étais pas tout à fait un journaliste qui s'intéressait à la politique. J'étais plutôt journaliste culturel. Je m'intéressais plutôt de ce côté-là, parler de littérature, parler de musique, autre chose. Mais je sentais qu'il y avait une nécessité de porter une parole beaucoup plus intéressante sur la politique, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui parlent assez vraiment de ce qui se passe au sein de la politique en Haïti. Du coup, je me suis, en 2017, octobre 2017, je me suis dirigé vers la politique, d'analyser, de parler des faits politiques. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que les menaces ont commencé.
Parce que justement, vous avez été menacé, Anderson, et c'est quand vous avez traité des sujets un peu chauds dans l'actualité que vous avez été menacé. Est-ce que vous pouvez raconter
En fait, c'est ce qui quand j'ai commencé à insister, c'est vraiment insister, revenir sur des faits où... où on trouve le nom du président, par exemple, dans l'affaire du fonds Petro-Caribé. Le fonds Petro-Caribé, c'est une somme d'environ 4 milliards de dollars qui a été prêtée à Haïti par le gouvernement vénézuélien sur la forme de barils de pétrole qui devraient être réinvestis dans l'éducation, l'infrastructure qui allait permettre à Haïti de se développer. Et malheureusement, ces politiques-là ont détourné cette somme-là, créé des programmes bidons pour dilapider le fonds Petro-Caribé. Moi, je revenais tout le temps là-dessus pour parler du fait qu'il y a le nom du président, de l'ancien président qui a été et cité dans des affaires de corruption par rapport au fonds Petro-Caribé et d'autres politiques. Du coup, en février 2019, j'ai commencé à subir des menaces.
Et alors, c'était quel type de menaces que vous subissiez ?
En fait, c'était des menaces téléphoniques en février 2017, des individus m'appelant et s'identifiant aussi comme partisans du pouvoir, le régime PHTK, qui se définit PHTK comme le parti PHTK, c'est Parti haïtien tête calée. Tête calée, c'est crâne rasé en quelque sorte, si je fais la traduction. Et je commençais à subir des menaces téléphoniques des gens et me dissuadaient de cesser mon émission. Et à un certain moment, ça a duré. Et en mars, j'ai cessé de répondre au téléphone. Et du coup, ces gens-là commençaient à s'en prendre à ma famille, à menacer aussi ma famille au téléphone.
Donc, quelles ont été les menaces ? Parce que votre famille a été touchée aussi par... par ces menaces-là.
Et ils ont appelé ma mère déjà pour lui dire si son fils n'arrête pas son émission. Et souvent, il prenait comme prétexte que c'était de la diffamation ce que je faisais. Je lui ai dit ben oui, si c'est de la diffamation, vous n'avez qu'à m'attaquer en justice. Comme ça, je vais avancer avec des preuves pour montrer voilà, les informations que j'ai diffusées à travers mon émission étaient de vraies. J'avais de très bonnes sources. Et ils n'ont jamais essayé de tenter de procès, tout ça. Ils ont appelé ma mère en mars pour menacer ma famille, disant que si ton fils n'arrête pas ton émission, on va s'en prendre à toi et on va s'en prendre aussi à ton fils. Donc ça a duré, il y avait eu dépôt de plainte et malheureusement ça n'a rien changé jusqu'au 11 avril où ma maison a été attaquée par des individus cagoulés.
Et vous êtes justement un journaliste avec une voix dissidente par rapport au pouvoir. Est-ce que les autres journalistes qui existent dans le pays sont aussi dissidents ou au contraire sont plutôt... sous la tutelle de l'État?
Il y en a beaucoup de journalistes en Haïti, malheureusement, qui sont des journalistes corrompus et qui ont, entre guillemets, une carrière assez intéressante dans le média. Il y en a des journalistes qui ont 30 ans de carrière qui sont au service du pouvoir, mais il y a d'autres journalistes aussi qui essayent de faire le même travail que moi, c'est dans le sens de dénoncer, de dire vraiment ce qui se passe, de donner vraiment les informations, de dire comment les dirigeants, eux, ils négocient de très mauvais contrats où ces dirigeants-là sont dans des affaires de corruption, tout ça. Il y a d'autres journalistes, mais aussi qui se font attaquer et qui sont menacés. Et il y a, si je peux citer, il y a Rodely Saint-Iné qui est correspondant culturel de RFI à travers l'émission Couleur Tropicale qui est pourchassé par des gangs aujourd'hui qui se cachent dans une école.
Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours en contact justement avec ces journalistes dissidents? Et est-ce que vous essayez de mener toujours le même combat ici en France?
J'ai jamais à un moment abandonné ce combat-là. Bien que je l'exerce sur d'autres formats, le métier de journaliste, en fait, j'ai fait de la rédaction aujourd'hui. J'écris pour L'Œil de l'Exilé, qui est un journal en ligne de la Maison des journalistes, des articles sur Haïti. Et j'ai fait pas mal de chroniques sur Getty News, qui est un média indépendant en ligne sur Haïti. Et j'ai jamais cessé d'en parler. Et aujourd'hui, j'ai toujours de très bonnes relations à certains journalistes qui sont encore en Haïti et qui sont un peu mes sources.
Justement, vous racontiez que après avoir fait ces révélations, vous avez été pourchassé et vous avez failli être en fait assassiné. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce moment-là aussi, s'il vous plaît?
En fait, j'ai subi ces deux tentatives d'assassinat. Et la première tentative, c'était le 11 juin, où des individus cagoulés ont été introduits chez moi avec des bidons d'essence, essayaient de défoncer plusieurs portes déjà. Et heureusement, ma mère, moi, j'étais pas à la maison parce que je savais que j'étais menacé. Je dormais chez plusieurs amis, et parfois dans des hôtels. Et ma mère était à la maison à ce moment-là avec une de mes petites sœurs. Et du coup, ces individus ont défoncé des portes avec des bidons d'essence. Il y a ma mère qui a eu ce réflexe d'appeler les voisins et aussi la police. Et les voisins se sont mobilisés. C'est ce qui a fait que ces individus-là ont pu prendre la fuite et ne pas eu le temps de descendre la maison. Et la deuxième tentative, c'était le 24 mai 2019. Où je sortais de mon émission et j'ai été attaqué par une personne à moto qui a tiré plusieurs coups de feu en ma direction.
Là, vous êtes donc menacé de mort. Et est-ce que c'est à ce moment-là où vous dites qu'il faut que vous quittiez le pays?
En fait, même après cette tentative-là, j'ai pas voulu quitter.
Pourquoi?
Parce que pour moi, c'était plus qu'un engagement d'informer les gens, de mener ce combat pour changer la situation d'Haïti. Parce que je le dis, aujourd'hui, on connaît tous les problèmes du monde en Haïti. Il y a des crises sur le plan social, sur le plan économique. Il n'y a rien qui fonctionne en Haïti. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien du tout. Je sentais que c'était plus qu'un devoir pour moi d'en parler, de voir si je peux vraiment participer à un changement. Donc, j'ai pas voulu lâcher jusqu'en juin 2019, où quand je me suis rendu le 2 juin à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, où des collègues journalistes m'ont appelé me disant qu'il ne faut pas retourner à Petit-Goave et qu'il faut quitter le pays parce qu'il y a les gens du pouvoir qui me tendent une embuscade, qui sait que je devais retourner à Petit-Goave, ma ville natale, et voilà, qui m'attendent pour m'assassiner. Du coup, j'ai vraiment pris conscience de la situation et j'avais même pas de documents de voyage. J'ai appelé ma famille pour m'envoyer à travers un chauffeur mes documents de voyage et quelques vêtements. Et après, je me suis rendu le 14 juin en République dominicaine, 14 juin 2019.
Et après ça, vous arrivez à la maison des journalistes à Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler de la maison des journalistes pour les auditeurs peut-être qui ne savent pas ce que c'est tout simplement?
Et la maison des journalistes, c'est une structure qui existe depuis 2002, qui accueille des journalistes en difficulté, des journalistes exilés. Et à la maison des journalistes, il y a 14 chambres, donc il y a 14 journalistes résidents à la maison des journalistes. Et du coup, la maison des journalistes aide les journalistes dans leur démarche administrative jusqu'à l'obtention du statut réfugié. Et la maison des journalistes aussi donne la possibilité à ces journalistes-là de pouvoir continuer à exercer le métier à travers leur journal en ligne qui s'appelle L'œil de l'exilé. Et aussi, il y a un programme qui s'appelle Renvoyé spécial, qui est un programme de sensibilisation sur la liberté de la presse et la liberté d'expression. Donc, et aussi, la maison des journalistes aide certains journalistes qui n'ont pas de ressources à travers des tickets de services pour pouvoir acheter à manger. Donc,
et quand est-ce que vous arrivez justement à la maison des journalistes?
En fait, je suis arrivé en France le 24 juin 2019. Ça a été un long parcours parce que de République dominicaine, je me suis rendu à Panama, de Panama, Espagne, Espagne, Pologne et Pologne et la France le 24 juin 2019. Je me suis vite fait me retrouver dans la rue. J'étais dans la rue, arrivé en France et j'ai passé des mois dans la rue. Et tantôt, quand j'ai un peu de sous, des amis me donnent un peu d'argent, je me dirige vers une auberge de jeunesse et après encore dans la rue. Donc, jusqu'à ce que j'ai rencontré un ancien résident de la maison des journalistes qui est un haïtien, qui m'a parlé de la maison des journalistes. Et j'avais fait une candidature et j'ai dû attendre 4 à 5 mois avant d'être accepté à la maison des journalistes. Donc, j'ai été accepté le 22 juin 2020 à la maison des journalistes. Et du coup, j'ai passé 2 ans à faire des démarches administratives avant l'obtention de mon statut de réfugié.
Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, je ne sais pas, sur quel projet journalistique, par exemple, vous travaillez? Et est-ce que vous projetez dans l'avenir de retourner en Haïti?
Je travaille sur plusieurs projets, déjà un projet de podcast pour parler un peu du parcours des journalistes exilés. C'est de donner la possibilité à ces journalistes-là de raconter un peu leur parcours. J'ai déjà tourné pas mal d'épisodes pilotes et j'ai été fait mon premier épisode avec un journaliste afghan qui s'appelle Mortaza Beboudi, qui est journaliste pour Arte. Donc je travaille aussi sur un projet, toute une série de reportages sur le déclassement professionnel des personnes migrantes. Donc c'est parler un peu le fait qu'il y a des migrants qui arrivent en France, qui avaient leur métier et qui arrivent en France, sont obligés de lâcher ce métier-là pour faire autre chose, alors que eux, ils voulaient vraiment rester dans le métier. Si je prends le cas de plusieurs journalistes à la Maison des journalistes qui étaient obligés de faire autre chose parce que déjà le marché médiatique est très saturé en France et aussi ils n'ont pas la culture. Il y en a parmi eux qui ne parlent même pas le français. Donc, ouais, je voulais tourner toute une série de reportages là-dessus.
Et vous avez parlé d'un podcast. Est-ce qu'on pourrait savoir peut-être le nom de ce podcast et est-ce qu'il y a une date de sortie de prévue ?
En fait, c'est un projet que je suis en train de travailler avec un journaliste guinéen et aussi une journaliste qui s'appelle Capucine Jaffé, qui fait déjà pas mal de podcasts. Et elle fait un podcast qui s'appelle Déraciner des plats, tout ça. Donc, on n'a pas encore statué sur le nom, mais on a déjà tourné pas mal d'épisodes. Donc, je pense que ce sera très bientôt disponible. On va essayer de soumettre ça à une boîte de production ou un média donc, qui s'intéresse à ce projet.
Et est-ce que en France, vous continuez votre lutte contre la corruption en Haïti?
J'ai toujours, en fait, une fois arrivé à la Maison des journalistes, j'écris beaucoup d'articles sur l'œil de la Maison de journalistes, sur la situation politique Haïti, la situation sociale. J'écris sur la liberté de la presse, j'écris sur les différents enlèvements qu'il y a eu en Haïti. J'écris un peu sur tout ce qui se passe en Haïti depuis août 2020, depuis mon arrivée à la Maison des journalistes. Et j'écris aussi sur Getty News, qui est un média franco-exilé. Donc, j'ai jamais cessé de parler.
Donc, même en France, vous continuez à faire du journalisme. Et est-ce que vous avez d'autres projets, par exemple, le projet de retourner en Haïti un jour
En fait, j'ai brûlé d'envie de retourner en Haïti, mais je sais que c'est pas possible. Déjà, je sais, si je retourne en Haïti, on va m'assassiner parce que c'est comme ça fonctionne en Haïti. On n'emprisonne pas les journalistes, on les assassine. Et aussi, je sais, même sur le plan juridique, une fois que tu as le statut de réfugié, tu ne peux pas retourner dans ton pays d'origine, sinon tu vas perdre le statut de réfugié politique.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir ici, Anderson. Et puis, on espère le meilleur pour vous. Et pourquoi pas vous revoir très bientôt sur Cité Radio.
Merci à vous aussi, ça a été un plaisir.